On dévoilait hier études réalisées par l'Université de Sherbrooke, enquête réalisée par l'Université de Sherbrooke sur l'état de santé des individus dans le coin. On en parle avec notre collaboratrice. Elle est avec nous tous les lundis, mais elle est également, évidemment, professeure et chercheuse à la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke. Mélissa Généreux, bonjour.
Bon matin, Steve.
Données inquiétantes, hein, encore une fois, divulguées hier sur l'anxiété et la dépression des individus québécois.
Oui, tout à fait. Il faut savoir que ces données-là ont été collectées très récemment. On parle au mois de septembre, dans la première moitié de septembre, dans 7 régions du Québec. Les régions, je dirais essentiellement, qui sont virées rouges ou oranges là, cette semaine, donc Montréal et les alentours, et ça inclut l'Estrie en passant. Donc, quand même, plus que 6000 adultes qui ont répondu. Et à travers cette enquête-là, là, vraiment, le constat principal qui ressort, c'est que on a 22 % des adultes qui ont répondu au sondage qui affichent des symptômes compatibles soit avec de l'anxiété généralisée ou de la dépression majeure. Donc, c'est vraiment important là, comme statistique.
C'est important parce que ça semble vouloir perdurer un peu dans le temps. Et ce qui est super intéressant, Mélissa, tu as eu de l'expérience beaucoup avec les gens de Lac-Mégantic. On peut comparer avec d'autres communautés aussi, celle de Fort McMurray, avec les fameux feux là, qui avaient eu lieu il y a de ça quelques temps. On parle en 2016. Est-ce que c'est surprenant? Est-ce que c'est inquiétant de voir une espèce de détresse qui se prolonge comme ça dans le temps?
Mais en fait, comme tu l'as dit, si on fie aux autres catastrophes, parce qu'il faut vraiment comprendre qu'on traite la pandémie ici comme un type de catastrophe bien différent, là, on en conviendra, qui s'étire dans le temps, mais qui a tout à fait le même type d'impact au niveau de la santé psychologique. Donc, est-ce qu'on est surpris 6 mois après le début d'une telle catastrophe de voir l'ampleur des impacts psychosociaux? Non. Moi, ce qui me fatigue beaucoup, par contre, c'est qu'on est encore dans la crise. C'est comparativement à, comment je pourrais dire, le feu, disons, à Fort McMurray, qui sévi là, pendant quelques jours, les évacuations massives, mais rapidement, on est retourné vers ce qu'on appelle le rétablissement progressif. On retourne à la maison, tranquillement, la communauté se reconstruit. Mais là, on est comme déjà dans cette phase-là où on sent là, l'épuisement, mais on est toujours aussi dans la phase aiguë de crise. On amorce à peine la vague 2. Donc, comment ça va évoluer tout ça en termes de durée? Est-ce que les impacts vont durer non seulement pendant la crise qui semble s'éterniser, mais aussi après, peut-être une année, 2 ans après? Il faut vraiment anticiper que les impacts vont être longs et sont là pour rester un petit bout, malheureusement.
Si on compare, si on regarde, est-ce que c'est pas mal le même pourcentage de gens qui ressentaient des symptômes comme ça depuis le début? Est-ce que ce sont des nouvelles personnes? Est-ce que le même monde est pogné avec ses problèmes dépressifs depuis 6 mois?
Bien, en fait, il y a 2 choses. Il y a des gens qui avaient déjà des problématiques parce qu'on ne se cachera pas qu'avant la pandémie, l'anxiété, la dépression étaient déjà une problématique qui était à la hausse, là, notamment en Estrie, mais je dirais partout au Québec. Donc, on avait déjà, à mon avis, beaucoup trop de gens qui souffraient d'anxiété et de dépression, beaucoup trop dans le sens que je pense qu'on avait déjà un travail à faire en promotion de la santé mentale. Et là, on ajoute un stress additionnel, ce qui fait que les gens qui allaient déjà moins bien au niveau de la santé psychologique, plusieurs d'entre eux ont vu leur état se détériorer, donc les symptômes sont plus présents qu'avant. Et il y a des nouvelles personnes qui n'avaient jamais eu de problème et qui, là, se sont mis à développer de l'anxiété ou de la dépression. Donc, c'est ce qui explique là, qu'on se retrouve avec un chiffre aussi élevé. J'ai pas de comparable précis parce que malheureusement, on se rend compte que des études populationnelles sur la santé mentale bien précises, là, qui calculent la santé mentale comme on le fait dans notre étude, il n'y en avait malheureusement pas au Québec avant, mais c'est sûr qu'on n'était pas à 22 % là. Ça, je peux te le garantir, on était vraiment plus bas que ça en termes de pourcentage, j'en suis certain.
Mais c'est sûr que ça sort de l'étude, mais quelle tristesse quand même qu'on n'ait pas de comparatif possible. Hein. C'est particulier qu'on s'intéresse si peu finalement à la santé mentale des individus.
Ben, écoute, moi, ce que j'ai réalisé, je cherchais absolument un comparable, puis je me suis rendu compte qu'il y a une grande étude canadienne qui se fait à tous les 2 ans, là, l'enquête sur la santé des collectivités canadiennes. Et justement, en 2015-2016, ils ont fait un volet santé mentale. Ils ont questionné là, plusieurs dizaines de milliers de Canadiens. Là, je me suis dit, ben, c'est bien, si je vais aller chercher le volet québécois, pour me rendre compte que c'était un volet optionnel, le volet santé mentale. Ah, si je comprends bien, au Québec, on n'aurait pas opté pour... cette option-là, de questionner les gens sur la santé mentale. Oui, on n'a pas pris l'option, malheureusement.
C'est dommage. Dans l'étude qui était dévoilée hier, dans les résultats de sondage, on se rend compte, encore une fois, qu'il y a quand même des clientèles qui semblent plus fragilisées, les jeunes, entre autres.
Écoute, les jeunes, les 18-24 ans, ça fait presque pas de sens quand je le dis. J'ai l'impression que vous ne me croirez pas, mais regardez, c'est les chiffres qui disent, pas moi. On a 37 % des jeunes de 18 à 24 ans, à l'échelle des 7 régions toujours, qui, en ce moment, ont des symptômes compatibles avec l'anxiété ou la dépression. Donc, 4 jeunes sur 10, c'est ça. Ça n'en est presque pas croyable. Ouais. C'est énorme. Et ça, il faut absolument... En fait, il faut être conscient qu'il y a un gradient avec l'âge. Et ça, plusieurs personnes sont surprises parce qu'on se rend compte qu'à chaque décennie là, qu'on gagne, on voit que le risque d'anxiété et de dépression diminue fortement, en ce sens que chez les 65 ans et plus, qui pourtant sont probablement parmi les personnes qui ont le plus été affectées, en tout cas du moins pendant la vague 1, on leur demandait carrément de ne pas sortir.
Bon, oui.
Et pourtant, ces personnes-là aujourd'hui sont celles qui semblent de loin les moins affectées au niveau psychologique. Donc, c'est vraiment une histoire de jeunes adultes, je dirais, là, qui sont les plus touchés en ce moment.
C'est toujours difficile de trouver des causes, des points, mais est-ce qu'on peut considérer peut-être les médias sociaux? Est-ce qu'il y a des points de réponse qui sortent?
Ben oui, c'est ce qui est la force de notre étude, c'est que c'est une étude interdisciplinaire. On travaille vraiment main dans la main les sciences de la communication, entre autres santé publique et sciences politiques. Donc oui, on avait prévu le coup, on a examiné toutes les variables de comment les personnes dans notre étude s'informent et comment ça pourrait influencer la réponse psychologique. Et justement, on met exactement le doigt au bon endroit parce qu'on se rend compte que les jeunes sont beaucoup plus nombreux à utiliser les réseaux sociaux, l'Internet ou même leur entourage pour s'informer au sujet de la COVID versus, je dirais, les adultes un peu plus âgés, mettons à partir de 35 ans et plus, ont plus tendance à aller sur les médias traditionnels, télévision, radio, journaux ou directement auprès des points de presse, les autorités de santé publique, le gouvernement. Donc, on s'informe plus quand on est jeune des sources, disons, plus informelles et aussi on a tendance à avoir plus moins confiance envers les autorités. Là, vraiment, nos données ont montré ça. Ce qui fait en sorte que nos jeunes sont aussi beaucoup plus nombreux à adhérer à des fausses croyances. Tu sais, certains diront même des théories du complot. Mm-hmm. Donc, tout ça, là, tout ce que je viens de te nommer là, ces facteurs-là sont directement prédicteurs de plus d'anxiété et plus de dépression. Donc oui, je pense que c'est un peu ces phénomènes-là, là, entre autres, qui viennent expliquer le fait que les jeunes sont plus anxieux et plus dépressifs au moment où on se parle.
J'imagine qu'on va faire un suivi. Il y aura un autre sondage, un autre coup de sonde un petit peu plus tard?
Bien, en fait, il faut savoir que cette étude-là, là, pour les 7 régions du Québec, c'était pas prévu dans notre protocole, si on veut, initial. Non, c'est plutôt parce que je suis bien connectée avec le réseau de santé publique. Puis, depuis l'an aiguille, les directeurs de santé publique ont dit, écoute, si tu nous l'offres, on va te mandater ton équipe et toi pour mener cette enquête-là comme un volet complémentaire à notre étude originale. Donc là, est-ce qu'on va vouloir répéter l'expérience dans quelques semaines? Ça se pourrait, oui. Là,
parce que ce serait intéressant.
Ben oui, avec l'annonce, les annonces, entre autres, là, de lundi, il semble que ça le fait un peu un effet de choc pour plusieurs personnes et toutes les conséquences qui s'en suivent. Donc oui, moi je pense que ça serait important de le suivre, mais je vais laisser les directeurs scientifiques concernés prendre les décisions elles-mêmes.
Mélissa, un gros merci d'avoir été avec nous ce matin.
Ça m'a fait plaisir.
La docteure Mélissa Généreux, chercheuse à l'Université de Sherbrooke, professeure également à l'Université de Sherbrooke.